Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Pour lui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Oh, Michou !
Non, Stéphane, bien avant Michou, et dans un laboratoire plus qu'un cabaret, c'est ce qu'a affirmé Lavoisier, le père de la chimie moderne. Mais un Lavoisier peut en cacher une autre, rester dans l'ombre. Stéphane Bern met en lumière celle dont le mari a pris toute la couverture, Marianne Lavoisier.
Vêtue d'un bel habit bourgeois, costume noir et chemise blanche à dentelle, Antoine Lavoisier est assis à sa table de travail. Devant lui sont posés des instruments de chimie, baromètre, gazomètre, cuve à eau. Au sol, un ballon de verre à robinet d'arrêt. La plume qu'il tient dans la main droite semble marquer une pause. Le père de la chimie moderne s'est arrêté d'écrire pour regarder son épouse, Marianne, qui a le regard tourné vers nous. Dans sa longue robe de mousseline blanche et sous son imposante perruque, c'est elle qui trône debout, en plein centre de la toile. Logique, me direz-vous. Car oui, c'est elle qui a commandé cette œuvre monumentale de 2,60 m de large sur près de 2 mètres de haut au peintre Jacques-Louis David. L'artiste néoclassique, portraitiste de la haute société du XVIIIe siècle, se livre ici à un éloge de la conjugalité de la science, montrant Marianne Lavoisier prendre appui sur l'épaule de son mari. Les rôles sont inversés car dans la réalité, c'est elle qui l'a épaulé toute sa vie. L'esprit n'a pas de sexe, les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes, écrivait le philosophe Poulain de la Barre au XVIIe siècle. Voilà qui est bien dit. Au siècle suivant, Marianne Lavoisier vient en témoigner. Née en 1758, elle est la fille de Jacques Pause, un avocat au Parlement devenu fermier général. Non, ne l'imaginez pas avec ses bottes et son chapeau de paille en train de travailler la terre. Les fermiers généraux sont des collecteurs d'impôts. Marianne reçoit l'éducation classique d'une jeune fille de la haute bourgeoisie. Au couvent de la Visitation de Montbrison, elle se montre tout particulièrement intéressée par la science et le dessin. Son destin aurait pu chavirer pour cause de mariage désastreux. Alors que sa fille vient d'avoir 13 ans, Jacques Pauls est dans l'embarras. Son oncle, le tout-puissant contrôleur général des finances Terray, veut marier Marianne à l'un de ses amis. Un homme bien plus âgé qu'elle, il a 50 ans. Et ce n'est en plus pas un très bon parti. Difficile pourtant de dire non à son oncle, mais impossible de laisser sa fille dans les bras de cet ogre. Et puis, il ne veut pas compromettre sa fortune. Jacques Pauls écrit donc à Terray pour lui signaler que non, ce mariage ne se fera pas. Mais l'oncle est insistant. Alors, pour être sûr qu'il laisse sa fille tranquille, Pauls décide de la marier. Qui sera l'heureux élu ? Un jeune fermier général de 28 ans qui répond au nom d'Antoine Lavoisier. Pour les imaginer, voici comment leurs contemporains ont dressé leur portrait. Lavoisier était grand. Il avait les cheveux châtains et les yeux gris, la bouche petite, un aimable sourire, un regard d'une grande douceur. De son côté, Mademoiselle Pauls était de taille moyenne. Elle avait les yeux bleus très vifs, les cheveux bruns qui, dans ses portraits, sont recouverts selon la mode du temps d'une perruque blonde fort disgracieuse, la bouche petite, le teint d'une grande fraîcheur. Ces deux bouches petites se disent oui à Paris le 16 décembre 1771. Le couple s'établit un temps rue Neuve des Bons-Enfants, c'est dans le premier arrondissement de la capitale, avant de poser bagage à l'Arsenal lorsque Lavoisier est nommé régisseur des poudres. Sous les combles de son logement de fonction, Antoine Lavoisier installe un laboratoire. Sa passion, c'est la chimie. C'est une passion qu'il transmet vite à sa femme. Marianne, impressionnée par le génie de son mari, fait tout pour pouvoir le suivre dans ses travaux. Elle demande à son frère de lui donner des leçons de latin. Elle apprend l'anglais pour traduire des mémoires de chimie à son époux. Elle tient les registres, note le résultat de ses expériences. Bref, si vous cherchez les Lavoisier, ils sont dans leur laboratoire chaque matin et chaque soir. En octobre 1787, l'agronome britannique Arthur Young rend visite au couple de Laborantin. Il écrit au sujet de Marianne. Madame Lavoisier, une personne pleine d'animation, de sens et de savoir, nous avait préparé un déjeuner anglais au thé et au café. Mais la meilleure partie de son repas, c'était sans contredit sa conversation, soit sur l'essai sur l'aphtologistique.
C'est quoi cette science, Stéphane?
Soit sur l'essai sur le phlogistique de Kirvan, qu'elle est en train de traduire, soit sur d'autres sujets qu'une femme de sens travaillant dans le laboratoire de son mari sait si bien rendre intéressant. Oh, quel compliment! Vous imaginez? D'autant plus pour l'époque, mes aïeux. Marianne Lavoisier n'est pas jugée en sa qualité de maîtresse de maison ou d'épouse dévouée, mais bien en tant que véritable collaboratrice de son mari. Bon, en revanche, il faudra se contenter des éloges de l'entourage, car nous sommes au XVIIIe siècle tout de même. Et c'est bien Antoine Lavoisier qui recueille tous les honneurs. Il est membre de l'Académie royale des sciences, de la Société royale de médecine, de la Société d'agriculture de Paris et d'Orléans, de la Royal Society de Londres, et je ne vais pas tous les citer car nous n'avons pas suffisamment de temps. Heureusement que Jacques-Louis David a rééquilibré la balance en faisant figurer son épouse au centre de son portrait. L'artiste a d'ailleurs donné des cours de peinture à Marianne Lavoisier. Ainsi, elle a pu réaliser les 13 planches du traité élémentaire de chimie, ouvrage considéré comme le tout premier manuel de chimie. Si tout semble sourire au couple Lavoisier, ne vous fiez pas aux apparences. Nous sommes en 1789 et les choses sont sur le point de changer. Nous sommes le 25 septembre 1789 et Marianne Lavoisier reçoit à l'Arsenal le gouverneur Maurice, ministre plénipotentiaire des États-Unis en France. Elle l'a rencontré à l'opéra et lui a proposé un thé en attendant le retour de son mari, appelé à l'hôtel de ville. Au cours de la discussion, elle confie à son invité qu'elle n'a pas eu d'enfant. L'homme ose évoquer sa paresse. Sous ses yeux, Marianne Lavoisier se met à pleurer et répond qu'elle n'a tout simplement pas eu de chance. Et la chance semble avoir définitivement abandonné. Certes, son mari a révolutionné les sciences, mais en tant qu'ancien fermier général, il représente les intérêts financiers de la monarchie. En pleine révolution, vous imaginez que ce n'est pas très bien vu. Résultat, le chimiste est arrêté sous la terreur. Antoine Lavoisier est guillotiné le 8 mai 1794. Dans le même temps, Marianne Lavoisier voit ainsi périr son père, son mari et ses amis les plus chers. Dépouillée de sa fortune, seule, sans parents, elle pleure ses morts, mais continue à faire preuve de courage. Après 2 mois passés en prison, elle parvient à être libérée puis obtient enfin, en avril 1796, la restitution des meubles, des papiers, des livres, des objets de laboratoire qui avaient été confisqués. Marianne épouse en seconde noces un certain Benjamin Thompson, comte de Rumford. Un homme attaché au progrès de la science, un bienfaiteur de l'humanité. L'inventeur d'une casserole à double fond, d'une cuisinière et d'une cafetière verseuse à filtre. Il se marie en 1805, mais la relation prend l'eau. Un de ses amis raconte par la suite que, depuis cette époque et pendant 27 ans, aucun événement, on pourrait dire aucun incident, ne dérangea plus Madame de Rumford dans sa noble et agréable façon de vivre. Elle n'appartint plus qu'à ses amis et à la société qu'elle recevait avec un mélange assez singulier de rudesse et de politesse, toujours de très bonne compagnie, et d'une grande intelligence du monde, même dans ses brusqueries de langage et ses fantasmes d'autorité. Marianne organise ensuite la publication des derniers mémoires de son cher Antoine Lavoisier et poursuit l'œuvre entreprise par son mari jusqu'à sa mort en 1836, à l'âge de 78 ans. Voilà le portrait d'une femme brillante du siècle des Lumières, restée injustement dans l'ombre de son mari.
Europe 1, historiquement vôtre.